Et c'est un bon nom que porte notre Sauveur, n'est-ce pas? Le plus précieux des noms. Vous savez, des noms, ça veut dire quelque chose. Et pour nous aujourd'hui, ça a un peu moins d'importance que dans le temps, mais le nom de Jésus, le plus beau, le plus important de tous, et on veut l'adorer. Alors, ce matin, nous serons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Après quelques semaines dans d'autres passages, nous revenons dans ce chapitre. Et c'est la fin du chapitre qui nous intéressera pendant quelques minutes, brièvement, ce matin. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Paul va faire une comparaison ici. Première épître aux Corinthiens, chapitre 9. Versets 24 à 27, permettez-moi de lire ces quelques versets, après quoi nous prierons. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé, après avoir prêché aux autres. Prions. Oui Seigneur, nous voulons te remettre ces quelques instants, que tu guides notre réflexion, que tu touches notre cœur, et que nous ne restions pas insensibles à ce que tu as pour nous, et en tout, Seigneur, que tu sois exalté et glorifié. C'est en ton nom que nous prions. Amen. Alors, cette image que Paul prend dans ces versets pour aider les chrétiens de Corinthe à comprendre cet enseignement qu'il voulait leur donner, et cette image plaît à pas mal. Les sportifs, ils se disent « Ah ouais, l'athlète qui se donne de la peine, comme nous voyons ici. » D'autres qui ne sont pas trop sportifs, athlètes, ils se disent « Ils peuvent se les garder, toutes les choses qu'on fait, toutes les courses, tous les régimes, tous les efforts. » C'est vrai, on n'est pas tous athlètes. » Certains peut-être plus que d'autres, mais Paul se servait de cette image parce qu'il savait que cette image résonnerait chez les Corinthiens. Eux, ils avaient des jeux, c'était pas les Jeux Olympiques, mais c'était quelque chose de similaire près de Corinthe. Régulièrement, ils avaient ces grands jeux. Et quand Paul ici parle du stade, il dit ceux qui courent dans le stade, c'est-à-dire l'endroit officiel où les jeux se passaient, les Corinthiens très vite, ils pouvaient s'imaginer. Ce grand arène, ce stade où tous les athlètes étaient présents, tous ceux qui tentaient remporter ce prix, comme il va parler au verset 24. Et Paul avait cette image à l'esprit et il savait que les chrétiens de Corinthe sauraient très bien de quoi il parlait et pourraient très bien s'identifier à cela. Et aujourd'hui, on regarde à la télé, c'était l'été dernier, les Jeux Olympiques, ce sera l'année prochaine, les Jeux Olympiques de l'été, et là, effectivement, beaucoup de courses et autres, et on regarde à la télé, et on regarde ces athlètes, et tout ce qu'ils font, c'est quand même à nos niveaux, et tout ce qu'ils se donnent, on va dire, tout entier pour cela. Et Paul veut se servir de cette image pour dire aux chrétiens, n'oubliez pas, nous sommes aussi dans une course. Nous aussi, nous allons quelque part. Et il fait cette comparaison que nous voyons ici. Et au verset 24, Paul, il va commencer en nous expliquant quelque chose qui nous frappe, qui nous semble assez étonnant. Il va commencer en disant, ne savez-vous pas? Alors, cette expression que nous avons déjà vue au chapitre 6, Paul, il s'en est servi pour dire aux chrétiens de Corinthe, vous devriez savoir, vous savez ceci. C'est comme s'il dit, ne savez-vous pas, mais bien sûr, vous savez. Pour lui, il est totalement convaincu que les chrétiens de Corinthe savent de quoi il va parler, mais il veut leur rappeler il veut leur faire cette comparaison. Il dit, tous ceux qui courent dans le stade, ben, ils courent tous. Donc, ils sont tous là, ils vont vers un même but, ils courent tous. C'est pas chacun à droite et à gauche, moi je cours dans un sens, et puis l'autre qui dit, moi je cours dans l'autre sens. Non, non, non. Ben, ils courent tous. Mais il dit, attention, un seul remporte le prix. Alors, à l'époque, c'était bien le cas. Contrairement à aujourd'hui, où on va dire, tout le monde est gagnant, n'est-ce pas? On ne veut pas de gagnants, on ne veut pas de perdants, on ne veut pas froisser, les gens, ils sont sensibles, donc même s'ils n'arrivent pas au premier, ben, on va leur donner quand même quelque chose. Vous l'avez vu, ben, surtout parmi les enfants, n'est-ce pas? Ben, t'as bien travaillé, même t'étais dernier, mais quand même, bon, on va donner un petit quelque chose. Bon, avec les enfants, on veut être sensible, n'est-ce pas? Mais à un moment donné, on a un gagnant, on a peut-être deuxième, troisième place, et après, il y a tous ceux qui restent. Et qui reçoit les récompenses? Eh ben, c'est celui qui est venu en premier, celui qui a fait le meilleur travail, celui qui est arrivé jusqu'au bout. Et Paul, ainsi que les Corinthiens, et ainsi que nous aujourd'hui, bien sûr, nous comprenons que même si il y a beaucoup dans la course, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix. Un seul qui est premier. Il n'y en a pas 36 000, un seul. Il y a quelque temps, mon père, il me racontait qu'il avait participé à une petite course, et ils étaient littéralement des milliers de gens. Et mon père a dit, ben, j'étais un peu à l'arrière, et ils ont donné le coup d'envoi, tout le monde est parti, et en fait, on était tant que entre le moment où ils ont donné le coup de départ, et puis le temps où moi, je me suis mis à courir, il m'a dit, il s'est passé il y a à peu près 15-20 minutes pour que toute cette foule, eh ben, avance. Et c'est vrai, on peut être plusieurs à courir, mais à la fin, il n'y a qu'un seul qui remporte le prix, comme il dit. Et il termine le verset 24 en disant, bah, courez, courez de manière à le remporter. Courez à manière de remporter. Et Paul explique ici quelque chose d'assez étonnant. Alors que dans le domaine humain, c'est vrai, un seul remporte un prix. Il est le gagnant, il est premier. Mais dans la vie chrétienne, bah, nous pouvons tous remporter les prix. Dieu a une course établie pour chacun d'entre nous. Dans la deuxième épître à Timothée, nous l'avons vu plus tôt ce matin, Paul, il va de nouveau employer cette image avec Timothée, il va dire, ben, j'ai achevé ma course. Moi, je suis arrivé jusqu'au bout. Il dit, désormais, pour moi est réservée cette couronne de gloire. Il va parler de couronne ici. Mais il dit, ben, courez pour, de manière à le remporter. Même si nous courons tous dans cette course, ben, chacun peut remporter, l'image qu'il utilise ici, une couronne. Chacun peut remporter un prix. Et de savoir cela, ben, déjà, ça devrait nous encourager. Paul, il va expliquer dans ce passage que si nous courons, c'est pas en vain. C'est pas courir juste pour courir. Il y a les gens qui font ça. Ils courent juste parce que. Ça m'arrive de temps en temps, mais je vous dis franchement, pour que j'aille courir, il faudrait qu'il y ait quelque chose derrière. Voilà, je cours et donc après je vais aller m'acheter une glace comme récompense. Allez, voilà. Mais des gens qui courent juste pour courir, bon, très bien. Mais dans la vie chrétienne, c'est pas ça. Si en tant que chrétien, nous courons, c'est-à-dire nous vivons notre vie chrétienne, nous faisons ce que Paul dit dans ces versets, ce n'est pas en vain. C'est quand même courir avec une espérance d'obtenir quelque chose à la fin. Et nous pouvons tous faire cela. Il y a des conditions, bien sûr, mais nous pouvons tous faire cela. Dans le domaine humain, il y a un seul gagnant. Les autres, ben, en général, n'ont rien ou pas grand-chose. Mais avec Dieu, c'est pas du tout cela. Lorsque nous nous engageons pour lui, lorsque nous avançons avec lui, nous savons que notre travail n'est pas en vain et que nous avons cette possibilité de remporter le prix comme il dit ici. Et dans notre vie, de nous poser la question, eh ben, est-ce que j'ai démarré la course C'est-à-dire, est-ce que ben, je suis sauvé? Parce que comme Paul dit ici, il compare tous ceux qui courent dans le stade, il est en train de parler aux chrétiens. La course dont il parle ici, c'est la course de la vie chrétienne. Et on ne peut pas tenter de remporter un prix dans une course si on ne démarre pas, si on ne commence pas. Et tout ce chapitre 9, Paul va concentrer ce que lui, il dit sur le témoignage, sur le salut. Du verset 1 de ce texte jusqu'à la fin, Paul est dans une optique d'évangélisation, de témoignage. Et il dit, cette course ici, c'est la course de la vie chrétienne. Et il faut avoir fait ce choix d'avoir accepté Jésus-Christ comme son sauveur. C'est comme cela qu'on démarre la course. Certains l'ont fait. Beaucoup, à travers l'histoire, l'ont fait. Et Dieu veut que chacun démarre cette course, l'accepte par la foi. Mais tous ne l'ont pas fait. Et malheureusement, tous ne le feront. Tous ne le feront pas. L'offre est là. La possibilité est ouverte à chacun de le faire, de démarrer cette course. Et il faut s'examiner, se poser la question, ai-je commencé la course? Parce que sans la commencer, je ne peux pas prétendre remporter quoi que ce soit. De se poser la question, ai-je commencé la course? Mais si nous avons commencé la course, Paul dit, il y a des paramètres à respecter. Et verset 25, regardez. Si nous sommes dans cette course, ceux qui combattent, ou on peut dire aussi courent, s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinence. C'est-à-dire, ils se privent de certaines choses, parfois des choses tout à fait légitimes. Et très souvent, on parle de ces régimes que ces athlètes suivent, et ils ne vont pas manger tel ou tel aliment. Alors que l'aliment en lui-même, il n'y a rien de mal. Ils vont se priver des choses sucrées, des choses qui vont soit faire gagner du poids ou ne pas apporter des muscles. Et ils vont se limiter, se priver de beaucoup de choses. Et puis après, ils vont manger des choses peut-être qu'ils n'aiment pas trop. Vous savez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ces sortes de boissons toutes vertes, où c'est un mélange de feuilles, de plantes vertes et tout. J'en ai jamais goûté, mais d'après ce qu'on me dit, ça, le goût n'est pas très bon. Bon, beaucoup le prennent, pas parce que c'est bon, parce que non pas parce qu'ils apprécient, mais parce qu'ils croient que ça va, c'est plus sain, ça va éliminer certaines choses en eux. Donc ils vont faire ça non pas parce que cela leur plaît, mais parce qu'ils se disent cela va m'apporter quelque chose, il y a un bénéfice. Et Paul ici il dit ceux qui vont combattre, ceux qui seront dans cette course, ils vont se priver, ils vont mettre en place toutes sortes de choses, parfois des choses qui font mal, des choses qu'ils ne feraient pas autrement. Mais parce qu'ils sont dans cet objectif de la course, ils disent je vais vers un but, alors là à ce moment-là, je suis prêt à accepter ces choses que je n'aurais pas acceptées autrement. Et dans la vie chrétienne, c'est pareil. Vous savez, la vie chrétienne comprend certaines exigences. On n'aime pas trop ce mot, exigence. Oula, non, n'exigez rien. Ne m'imposez rien. Si j'ai le temps, je ferai. Mais surtout, n'exigez pas. Si je vois l'importance, éventuellement, je ferai, mais pas d'exigence. Et pourtant, Dieu, il est très clair. Il y a des exigences. Et si nous voulons avancer avec lui, si nous voulons être fidèles dans cette course, si nous voulons aller jusqu'au bout, il est notre devoir d'accepter ces exigences. Et les gens du monde, ils vont nous regarder, ils vont nous dire, mais ils sont fous, ces chrétiens. Parfois, ils vont nous appeler des extrémistes, des fanatiques, vous allez trop loin là. Quand même, vivez un peu. Vivez pour vous, prenez un peu du temps pour vous. N'entendons-nous pas ce genre de réflexion? Et Paul dit, ceux qui font la course, ceux qui, les athlètes, ceux qui se préparent à quelque chose, vont faire des choses qui parfois ne leur plaisent pas, qui font du mal parce qu'ils ont autre chose en vue. Et les gens du monde, ils nous regardent nous lever le dimanche matin, Certains sont ici à partir de 9h45, mais ils nous voient passer toute la matinée ensemble. Et parfois toute la journée, comme nous allons faire aujourd'hui avec le repas en commun. Et puis à d'autres moments, ils vont nous voir venir le mardi soir. Après le travail, ils se disent, mais attendez, au milieu de la semaine, ben, prenez un peu de temps pour vous quand même. N'allez pas trop loin. Ils vont nous voir donner de l'argent à l'église. Ils disent, mais là, vous perdez de l'argent, c'est inutile. Vous auriez pu garder cela pour vous-même, utiliser cela autrement. Ils nous voient en train de prier pour d'autres. Ils disent, mais prier, c'est une perte de temps. Prier n'apporte rien. Mais à ce moment-là, nous sommes en train de nous imposer des choses que d'autres croient être des privations, des choses dures. Mais parce que nous avons une autre optique, nous voyons que ces choses sont nécessaires pour notre avancement avec Dieu. Et tout comme quelqu'un qu'on verrait courir et s'entraîner très très tôt le matin, et on se dit, mais il vaut mieux être au lit à ce moment-là. Lui, si on devait lui poser la question, on dirait, oui, peut-être je préfère être au lit, mais je vois que je dois m'entraîner, je dois aller de l'avant, et alors je le fais. Ils s'imposent toutes sortes d'abstinences, ils se font du mal. Et au verset 27, Paul va reconnaître que lui-même, il le fait. « Je traite durement mon corps, je le tiens assujetti. » Il dit, « Il y a des choses que je m'impose. Je voudrais faire certaines choses. Je voudrais disposer de mon temps comme moi je voudrais. » Il dit, « Cette tentation est là. Je suis tiraillé dans ce sens-là. » Mais il dit, « De l'autre côté, je sais que Dieu, il veut que je fasse autre chose. » Dieu veut que je passe plus de temps dans sa parole. Dieu veut que je passe plus de temps en train d'encourager mes frères et sœurs, que je passe plus de temps dans la prière. Et même si je voudrais m'occuper de telle ou telle activité, faire ce qui me plaît, ben non, je vais, dans ce sens, me faire violence, comme on dit, et je vais faire ce qui plaît à Dieu. Même si les autres pensent que je suis, dans ce sens, fanatique, même si les autres disent, eh ben, il n'est pas bien celui-là, celle-là. Je le fais parce que, tout comme Paul, tout comme ses athlètes, on a un autre objectif devant les yeux. Et en lisant ces versets-ci, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que Paul va écrire un peu plus tard dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4. Alors, prenez ce passage avec moi. Parce qu'il est vrai, parfois, nous nous imposons des choses, nous nous privons de certaines choses pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour avancer avec Dieu. Mais aussi, il y a des choses qui nous arrivent, que nous ne contrôlons pas. Vous savez, nous ne contrôlons pas toutes les circonstances dans notre vie. On aimerait, mais on ne contrôle pas tout. Et en plus des choses que nous pouvons nous imposer, qui parfois nous font du mal, et qui, même si elles sont nécessaires, sont dures, il y a des choses incontrôlables qui viennent nous mettre la pression, qui viennent nous éprouver. Et dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, à partir du verset 16, Paul va dire ceci. C'est pourquoi, donc tout ce qui précède, nous n'avons pas le temps ce matin de voir cela, mais vous pouvez noter ce passage et revenir plus tard. Il dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent. Alors, parfois on dit, oui, les choses par lesquelles je passe, oui, sont un peu difficiles, mais bon, ça va. À d'autres moments, on se dit, c'est extrêmement dur. C'est très, très lourd. Maladie, perte d'un être cher, perte d'emploi, des choses qui sont très, très difficiles. Pourtant, Paul dit, nos légères afflictions du moment présent. Et les afflictions, il en a connues. Il va les détailler un peu plus tôt. Il a été battu, lapidé, laissé pour mort. On se moquait de lui, on le chassait un peu partout, on le mal comprenait. On ne l'acceptait pas. Il a été rejeté un peu partout où il est passé. Il a fait naufrage. Il a été enchaîné. Et Paul dit, même devant toutes ces choses, je les regarde comme des afflictions légères du moment. Et on se dit, mais c'est pas possible, Paul, comment est-ce que tu peux dire ça? Il dit, parce que ces choses produisent, verset 17, pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternelles. Et Paul avait cette perspective. Il dit, il y a ces deux réalités, ces deux mondes. Le monde visible que nous voyons autour de nous, qui agit sur nous, qui est une réalité, qui fait mal parfois, et qui fait parfois très très mal. Au point où parfois nous demandons si nous allons pouvoir supporter, si nous allons pouvoir aller jusqu'au bout. Alors ça c'est une réalité, mais Paul était tout à fait conscient d'une autre réalité, cette réalité invisible. Là où Dieu travaille, là où Dieu encourage. Et cette perspective que notre vie ici sur terre n'est pas tout ce qu'il y a. Que Dieu est en train de préparer encore autre chose. Et Paul voyait plus loin de ce qu'il pouvait voir avec ses yeux physiques. Il dit, je regarde aux choses invisibles, c'est-à-dire Dieu, c'est-à-dire ma confiance en lui, toutes les bénédictions qu'il m'apporte. Et Paul dit, c'est cette optique-là que nous devrions avoir. Et lorsque nous revenons dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, Paul parle au verset 25 de toute espèce d'abstinence. Il se prive. Comme j'ai dit, il y a des choses qu'on s'impose soi-même, il y a d'autres choses qui nous sont imposées. Et il faut les accepter les unes comme les autres. Et Paul, au verset 25, va faire un contraste. Parce qu'il va dire, regardez, eux, donc les athlètes, tous ceux qui se préparent dans le domaine physique, s'imposent tout cela, ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Alors, le mot que Paul emploie ici est assez intéressant. Il dit, ils le font pour obtenir une couronne incorruptible. Alors, pour nous, couronne, on pense à cette couronne que les rois portent souvent en or ou dans d'autres fabriqués d'autres métaux précieux. Et on dit, voilà, couronne corruptible, c'est vrai, l'or, ça finit, oui, par se détruire, certains métaux commencent à se rouiller, et nous savons que les choses terrestres ne sont pas durables. Certaines durent un peu plus longtemps que d'autres. Mais on voit ce mot couronne, et c'est un peu cela qui nous vient à l'esprit. Alors, en grec, il y a un mot pour dire une couronne telle que nous l'imaginons. Et ça, c'est plutôt associé au diadème. Justement, c'est du mot grec que vient notre mot diadème, couronne. Mais ce n'est pas le mot que Paul emploie ici. Non, le mot que Paul emploie ici pour couronne, en fait, c'était une couronne fabriquée de feuilles et de branches qu'on donnait à celui qui gagnait soit la course ou la compétition. Et lorsque nous comprenons cela, on comprend que oui, c'était quelque chose de corruptible. Si vous avez des fleurs chez vous, qui poussent dans le jardin, vous les coupez, vous les mettez là sur la table, pendant combien de temps ces fleurs vont-elles durer? Quelques jours, peut-être une semaine, 10 jours, allez, au grand maximum. Et après, elles sont mortes. Elles fanent. Et il faut les jeter. Et les plantes, les feuilles, les branches, assez rapidement, cela va se dégrader, ça va disparaître, beaucoup plus rapidement que quelque chose fait en métal. Et nous comprenons que ici, Paul, il utilise cette image de ce que recevaient les athlètes à l'époque, ce n'était pas du tout quelque chose qui durait. C'était peut-être pendant quelques semaines où ils pouvaient porter cela, et tout le monde savait qu'ils avaient gagné, mais au bout de quelques semaines, les feuilles mortes. Tomber, les branches toutes sèches, et après on n'a rien. Et on comprend cette couronne corruptible, c'était quelque chose qui ne durait que très peu de temps. Et Paul fait la comparaison, mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Et comme j'ai dit, il va reprendre cette idée lorsqu'il écrit à Timothée bien des années plus tard. Il a dit, j'ai achevé ma course et à cause de cela, une couronne m'est réservée, cette couronne incorruptible de la justice. Et de voir que les athlètes se donnaient tant de peine. Ils allaient à fond, s'imposaient toutes sortes d'abstinences, se priver de tout, faisaient des choses qui leur même faisaient mal, des choses qu'ils ne voulaient pas, mais ils savaient qu'il fallait aller jusqu'au bout. Et ils le faisaient pour quelques feuilles, quelques branches. C'est pas grande récompense, n'est-ce pas? Moi, j'aurais au moins demandé un chariot. Allez, pourquoi pas? Mais une couronne qui ne va pas durer. Et Paul dit, si eux, ils font cela, si ils sont si assidus, s'ils vont jusqu'au bout pour quelques feuilles et quelques branches, à combien plus forte raison, nous qui sommes chrétiens, si nous le sommes, c'est-à-dire si nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur, si nous avons commencé cette course, nous avons quelque chose de bien plus important, quelque chose avec bien plus de valeur. Nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Si eux, ils sont capables de le faire pour quelque chose qui va se détruire très rapidement, combien plus nous, pour quelque chose qui ne sera jamais détruit? Et de se poser la question, on vit pour Dieu, on lit la parole, on prend du temps pour prier, on vient à l'église, on donne pour Dieu, on obéit au commandement de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on nous a toujours enseigné comme ça? Parce que on nous a dit un jour, bah il faut faire comme ça, et voilà, on obéit sans se poser la question. Parce que d'autres attendent de nous que nous devrions être présents à telle ou telle réunion, qu'on devrait faire ceci ou cela. Pourquoi est-ce que nous vivons notre vie chrétienne? Pour se faire valoir, pour que les autres nous voient, parce qu'on a toujours fait comme cela, parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Ce ne sont pas des raisons valables. Non. Nous vivons notre vie chrétienne parce que nous avons une perspective éternelle. Parce que nous savons que Dieu nous récompensera. Et parfois, nous avons cette idée qu'il ne faut jamais parler de récompense dans la vie chrétienne. Qu'il faut faire des choses parce que ça plaît à Dieu, et on veut glorifier Dieu. Et entendez-moi bien, il faut avoir cette perspective, oui. Mais il ne faut jamais oublier que Dieu nous prépare une place, et avec cette place, il prépare des récompenses. Et Dieu n'est pas injuste pour oublier notre travail pour lui. Et en tant que chrétien, il y a des récompenses. Et lorsque nous vivons notre vie pour Dieu, oui, nous pouvons nous attendre à avoir des récompenses. Cela ne devrait pas être notre première motivation en disant, je le fais uniquement pour les récompenses. Non, bien sûr. Nous ne devrions pas avoir cette perspective. Mais il ne faut jamais oublier que, oui, si nous travaillons pour Dieu, à la fin, nous serons récompensés, c'est une certitude. Dieu lui-même se porte garant de cela. Et Paul dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Jésus va l'expliquer de cette façon. Ici sur terre, les voleurs viennent. Les gens se font cambrioler. Parfois dans des endroits où on s'y attendrait pas du tout. C'était Joséphine juste hier, sa voiture était sur le parking de Carrefour, apparemment quelqu'un serait entré un peu fouillé dans sa voiture. Ça peut arriver à n'importe quel moment. Ici sur Terre, les choses en métal rouillent, les vêtements ça se dégrade, tout se dégrade. Mais Jésus dit, il faut amasser des trésors dans le ciel, là où il n'y a pas de voleurs, il n'y a pas la teigne, il n'y a pas la rouille, rien ne se dégrade, rien ne s'abîme. Et lorsque nous avons cette perspective, ça change tout. Et nous priver de quelque chose ne devient plus un devoir, un lourd fardeau en disant « Ah, je le fais parce qu'il le faut, mais bon, je le fais presque contre cœur. » Non, je le fais parce que déjà je glorifie Dieu, Mais je sais que j'aurai une récompense, je vais vers cela. Pour dire, il ne faut pas minimiser le côté récompense. C'est une réalité. Il en était très conscient. Et après avoir expliqué ces choses, Paul, il se sert de son propre exemple. Il dit, moi, sur la base de tout cela, verset 26, parce que moi, j'ai cette perspective, il dit, je cours, non pas comme à l'aventure. C'est-à-dire, il y a des règles fixes. Il y a la course qui est bien délimitée. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas chacun un peu à droite et à gauche. Moi, je vais passer par ce chemin-là. Ça fait pas partie de la course. Moi, je vais partir dans l'autre direction. Non, ce n'est pas chacun qui décide où et comment il va courir. Non. Il dit, je ne cours pas comme à l'aventure. Je sais où je vais. La semaine prochaine, Patrick nous prépare cette randonnée. C'est pas comme s'il va arriver dimanche en disant, allons-y. Et on lui demande, mais où est-ce qu'on va? Il dit, je ne sais pas. Est-ce que vous allez le suivre à ce moment-là? J'espère que non. Je sais qu'il ne fera pas cela. Mais imaginez, on va quelque part, mais on sait pas où. On sait pas comment. Comment est-ce qu'on saura qu'on est arrivé? Non, il dit, c'est pas comme à l'aventure, à tout hasard, juste comme ça. Non. La course, bien délimitée, on sait exactement où se trouve la ligne d'arrivée. Et puis, il dit, je frappe non pas comme battant l'air. Alors, cette expression assez intéressante, et vous pouvez vous mettre dans l'esprit quelqu'un qui fait de la boxe, en fait, mais dans le vide. Dans le vide. Il est là, il n'a pas quelqu'un devant lui, mais il fait les gestes et tout. Ce serait un peu bizarre, n'est-ce pas? Il se bat tout seul. À quoi ça sert? Rien. Si on va boxer, parce que c'est là quand il dit je frappe, non pas comme battant l'air, c'est cette image de la boxe. Il dit, à ce moment-là, il faut avoir quelqu'un en face. Sinon, cela ne sert à rien. Il dit, oui, je travaille. Je vais quelque part, je frappe, j'exerce mes efforts. Mais c'est bien ciblé. Ce n'est pas comme à tout hasard. Je sais exactement ce que je fais. Il dit, je ne fais pas des gestes inutiles. Je n'exerce pas mon effort dans les choses qui ne m'aident pas, qui ne m'avancent pas. Non. Au verset 27, il dit, je traite durement mon corps. Je le tiens assujetti. Alors, les expressions qu'il emploie, c'est vraiment assez dramatique. Il dit, je traite durement mon corps. On a parfois tendance à tomber dans la mollesse en disant « Ah, bon, je vais laisser passer ça. Je vais un peu, rétrograder. Je ne serai pas aussi assidu. » C'est ce qui m'est arrivé ces derniers temps avec mon footing. À un moment donné, j'étais assez assidu. J'étais assez content de moi. Je sortais plusieurs fois par semaine, assez régulièrement. Là, ces derniers temps, je ne l'ai pas fait autant que j'aurais pu. Mais Paul dit, pour lui, rien de ça. Non, il était assidu et il traitait durement son corps. Il dit, je me suis privé de certaines choses, je me suis imposé d'autres choses dans le domaine physique, tout comme dans le domaine spirituel. Je suis certain, il y avait des jours, Paul ne voulait pas trop se lever, que Paul n'avait pas trop envie de faire l'œuvre du Seigneur. Paul, il était humain, je suis certain, il est passé par des moments comme cela. Mais ces jours-là, il ne s'est pas écouté en disant « Ah, je vais rester au lit un peu plus longtemps. Ah, aujourd'hui, je vais m'occuper de certaines choses et je ne vais pas témoigner. » Non, il dit « J'assujettis mon corps. Ce n'est pas mon corps qui me dicte ce que je dois faire, non, c'est Dieu. » Et pour nous, aujourd'hui, parfois, nous aurions le désir de faire telle ou telle chose. Et il faut se poser la question, est-ce que ces choses avancent notre vie spirituelle? Est-ce que ces choses nous avancent avec Dieu? Parce que à la fin du verset 27, et c'est avec cela que nous allons terminer ce matin, Paul explique quelque chose qui pour nous est d'une importance capitale. Parce qu'il explique au début de ce passage que oui, certains dans le domaine physique s'imposent toutes sortes de choses parce qu'ils veulent remporter une récompense qui ne va pas durer. Nous, nous devrions le faire parce que nous avons une perspective éternelle. Nous le faisons pour le Seigneur, mais aussi il y a ces récompenses qui sont là. Mais à la fin du verset 27, Paul arrive à cette conclusion qui fait toutes ces choses en plus, comme si toutes les autres choses n'étaient pas assez. Il le fait en plus de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Ici, Paul parle de la disqualification. Vous vous engagez dans soit une course ou dans une compétition, il y a des règles. Et il faut suivre les règles. Et si jamais quelqu'un ne suit pas les règles, il est disqualifié, n'est-ce pas? Au foot, bah, il y a des gestes qu'on ne doit pas faire. Et si on les fait, bah, c'est carton jaune. Mais parfois, c'est carton rouge. Et quand il y a carton rouge, bah, on est expulsé. On n'a plus le droit de jouer pour ce match. Et dans chaque sport, il y a des règles. Là, on arrive bientôt sur le Tour de France. Je crois que c'est au mois de juillet, mois de juin, juillet par là. Et là, pour cette course, faut rester sur la route, il faut bien suivre. Et si jamais on prenait un raccourci non autorisé, certes, peut-être on arriverait premier, mais on serait disqualifié. Et vous avez tous entendu parler de ce dopage, la triche. C'est tellement dommage que les hommes en arrivent là. Mais par leur orgueil et pour d'autres raisons, ils en arrivent là. Et à cause de la triche, à cause du dopage, ils sont disqualifiés. Et c'est normal. Il faut suivre les règles. Et Paul, ici, il a ce souci, il se dit, moi, j'ai prêché à d'autres. Il le dit, après avoir prêché à d'autres, Paul était fidèle dans son enseignement. Il évangélisait. Il emmenait les gens à Dieu. Il annonçait le salut en Jésus-Christ. Il travaillait pour Dieu. Il encourageait les chrétiens. Et il dit, je fais tout cela, mais aussi je fais très très attention. Et c'est comme s'il dit, je ne suis pas à l'abri d'enfreindre les règles. Il parle d'être disqualifié, non pas qu'il perdrait son salut, non, mais il perdrait sa crédibilité. Imaginez-vous, et malheureusement on n'a pas trop besoin d'imaginer, nous connaissons des cas. Des pasteurs, des serviteurs de Dieu, même des chrétiens qui ont professé le nom de Jésus-Christ, qui ont dit l'avoir accepté, qui étaient engagés pour Dieu, même des pasteurs qui prêchaient pendant des années, que à la fin, soit ils divorcent, ils tombent dans d'autres péchés, certains quittent le ministère, et à ce moment-là, ils perdent toute crédibilité. Alors, s'ils étaient réellement sauvés, ils ne perdent pas leur salut. Mais ils n'ont plus aucune crédibilité, parce que les gens vont dire, oui, tu disais toutes ces choses, mais regarde ta vie maintenant. Tu disais qu'il ne fallait pas faire ces choses, que cela était un péché, mais maintenant tu le fais. Alors, pourquoi est-ce qu'on devrait t'écouter? Pourquoi est-ce qu'on devrait accepter ce que tu offres? Ce salut en Jésus-Christ, mais apparemment cela ne t'a rien fait. Voici le genre de réflexion que les gens pourraient avoir. Et Paul termine ce passage en disant, je fais attention. Il dit, je traite durement mon corps, bien sûr, oui, dans ce sens, les récompenses, parce qu'il veut avancer pour Dieu, parce que il veut arriver en ayant fait le mieux pour le Seigneur qu'il pouvait. Mais aussi, il reconnaît que s'il ne fait pas attention, il risque de tomber et à ce moment-là, perdre toute crédibilité et nuire à toute l'œuvre qu'il avait fait depuis des années. Et en lisant cela, je me suis dit, si Paul, il était soucieux de cela, s'il a vu la tentation dans sa propre vie, combien plus moi, combien plus chacun d'entre nous devrions veiller Dieu a donné ses règles dans sa parole. Dieu appelle le péché, péché. Dieu a ses commandements que nous devrions obéir. Et bien sûr, nous devons le faire pour obéir à Dieu et lui plaire, lui être agréable. Bien sûr, ça doit être notre motivation première. Et bien sûr, nous devrions le faire parce que il y aura des récompenses. Dieu n'est pas injuste, il nous récompensera, gloire à Dieu. Mais aussi, n'oublions pas que nous avons un témoignage devant les autres. Notre vie parle, parfois beaucoup plus fort que nos paroles. Et si nous ne faisons pas attention, si nous ne veillons pas chaque jour, nous risquons de nuire à notre témoignage en parole par notre témoignage en action. Et Paul dit ici, j'ai cette peur, je suis peut-être pas inquiet, mais j'ai cette peur, j'ai ce souci que une fois que j'aurai prêché à d'autres, je serai moi-même disqualifié, discrédité, si vous voulez. Et dans notre vie, de nous poser la question, est-ce que j'obéis à Dieu? Est-ce que je suis ce que Dieu veut, cette voie qu'il a planifiée pour moi? Est-ce que je le laisse diriger ma vie? Parce que je suis soucieux du témoignage que j'ai auprès des autres, de ce que les autres, dans ce sens, vont penser de moi et de mon témoignage chrétien. Paul, il avait cette peur. Il a dit, j'ai prêché à d'autres. J'ai appelé d'autres à la foi en Jésus-Christ. Et qu'est-ce qu'ils voient quand ils voient ma vie? Peuvent-ils dire, tu appelles à cette foi en Jésus-Christ, mais tu suis pas. Ça ne te fait rien. Ou est-ce qu'ils voient une différence en nous? Est-ce qu'ils voient que nous allons jusqu'au bout? Est-ce qu'ils nous voient dans ce sens comme des athlètes chrétiens, avec cette perspective éternelle devant nos yeux? Qu'ils se moquent de nous, peu importe. Qu'ils ne comprennent pas réellement, peu importe. Que cela ne nous empêche d'aller jusqu'au bout, de courir dans cette course que Dieu a planifiée pour nous, pour être agréable à Dieu, pour que nous ne soyons pas disqualifiés et discrédités, mais au contraire, que nous soyons reconnus comme ceux qui sont allés jusqu'au bout, que nous ayons ce témoignage, comme Paul dit dans la deuxième épître à Timothée, chapitre 4. J'ai achevé ma course. Je suis allé jusqu'au bout. Et je l'ai fait pour Dieu et pour sa gloire. Il nous faut examiner notre vie. Et pas juste rapidement jeter un coup d'œil et puis passer à d'autres, mais un examen plus profond, par la parole de Dieu, par la prière. Laissez le Saint-Esprit nous indiquer les domaines qui doivent changer dans notre vie. Nous sommes trop promptes à nous écouter. Ma mère disait toujours, il ne faut pas s'écouter, il faut se parler. Et plutôt laisser la parole de Dieu nous parler. Et se poser la question, où est-ce que je suis dans ma course? L'ai-je même commencé? Et si je l'ai commencé, est-ce que je cours avec persévérance? Est-ce que je cours comme Dieu, lui, il veut que je le fasse? Prions, s'il vous plaît. Oui, Seigneur, nous voyons la vérité de ta parole. Parfois, nous voulons nous croire meilleurs que nous sommes. Que tu touches notre cœur, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse nous indiquer des domaines dans notre vie qui doivent changer, que tu nous rends, tout comme Paul, fidèles dans notre course, que nous puissions nous assurer que nous l'avons commencé, que nous t'avons accepté par la foi comme notre sauveur personnel, et Seigneur, que nous puissions être agréables, et que nous allions jusqu'au bout sans nous disqualifier, sans nous discréditer, et que tu puisses recevoir tout l'honneur et toute la gloire pour ce que tu feras dans notre vie par ton Saint-Esprit. C'est en ton nom que nous prions. Amen.